politique. Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. C'est un paradoxe qui fait réfléchir. Nous connaissons mieux la surface de la Lune, voire celle de Mars, que les fonds marins de notre propre planète. Alors que des satellites ont cartographié chaque cratère lunaire avec une précision étonnante, plus de 80% de nos océans restent encore aujourd'hui largement inexplorés. L'océan, pourtant omniprésent, demeure un monde difficile d'accès alors qu'il fait partie intégrante de notre planète. Sa profondeur, son opacité, sa pression extrêmes rendent son exploration bien plus complexe que celle d'un corps céleste sans atmosphère. Les choses changent. De l'espace aux abysses, la donnée, c'est-à-dire la connaissance, est désormais au cœur des rapports de puissance. Les océans entrent à leur tour dans l'ère du numérique. Dans ce contexte, le sommet international sur les océans qui se tient ce mois-ci à Nice, dans le sud de la France, ambitionne de poser les bases d'une gouvernance renouvelée de la mer, où science, technologie et stratégie se croisent. Que signifie vraiment cette numérisation de l'océan dont on parle tant? Cartographier les fonds, surveiller les flux, modéliser les écosystèmes, traquer les pollutions, anticiper les catastrophes. Derrière la collecte, le traitement et la valorisation des données maritimes se joue une nouvelle forme de souveraineté. Des satellites aux capteurs sous-marins, des jumeaux numériques aux plateformes de données partagées, qui maîtrise les outils et surtout à quelle fin? Coopérer ou dominer, explorer ou exploiter, protéger ou surveiller la donnée maritime devient un champ d'affrontement aussi bien technologique que politique. Dans un contexte marqué par la montée des conflictualités hybrides, la souveraineté maritime ne se pense plus sans souveraineté numérique. La mer est-elle un territoire numérique comme les autres? Pour cette édition en partenariat avec la Revue internationale et stratégique et son numéro intitulé « L'océan transparent géopolitique des données maritimes », nos invités Julia Tass, coordinatrice de cette édition de la RIS, responsable du programme Océan de l'IRIS, et autrice de Géopolitique de la mer. Bonjour.
Bonjour.
Par téléphone, Guillaume Delacroix, journaliste indépendant, spécialisé dans le sujet lié à l'océan et au changement climatique, contributeur au Monde et à l'Express. Bonjour.
Bonjour.
Et Charles Guénois, officier de marine, en échange chez Orange Cyberdéfense, avec expérience opérationnelle sur les bateaux de la marine et dans le numérique. Bonjour.
Bonjour.
Le monde sous-marin recèle des richesses immenses, biodiversité inconnue, ressources minérales convoitées, archives géologiques du climat, sans oublier les enjeux de sécurité et de souveraineté qui s'y jouent de plus en plus. Quel est l'objet de ce sommet sur les océans de Nice et quelle est la place véritable pour les questions numériques à ce sommet, Julia Tass?
Il y a énormément de sujets qui seront à l'agenda de cette conférence. Donc les données, parce qu'elles sont, comme vous l'avez présenté, de nature très différente et très hétérogène, ils prendront une place importante aussi. Peut-être pour revenir sur l'origine de cette conférence. À l'origine, cette conférence, elle est faite pour parler de l'objectif de développement durable 14 des Nations Unies, qui porte sur la vie sous-marine, donc la vie dans les océans. Et finalement, sa première édition en 2017 a rassemblé tous les acteurs du maritime qui travaillaient sur cette question de la biodiversité en mer et de la pêche. Et on s'est rendu compte que c'était la seule occasion de regrouper tous ces acteurs du maritime. Et donc très vite, c'est devenu un rendez-vous assez incontournable avec des sujets qui sont venus se greffer. Donc cette conférence qui se tient la semaine prochaine, elle va évoquer à la fois la pêche, bien sûr, la protection de la biodiversité, et ce sera peut-être l'occasion d'en discuter, mais il y a un gros traité sur la haute mer qui a été adopté il y a de ça 2 ans, et dont la ratification est en cours aujourd'hui. Donc ce traité sur la haute mer, il est aussi à l'agenda. Et il y a tous les autres sujets qui viennent se greffer. On va parler des fonds marins et de l'exploitation des fonds marins. On va parler de la protection et des aires marines protégées. On parlera aussi de la manière dont certains outils peuvent permettre de gérer justement ces espaces maritimes. Et peut-être pour faire le lien avec les données, il y a des cadres de gouvernance de protection de la haute mer ou de certaines zones qui ont été discutées ces dernières années. Mais en fait, si on ne sait pas qui œuvre dans cette zone, comment on peut surveiller et sanctionner? Et donc la question de savoir, d'une part, est-ce qu'on est capable de surveiller, qui est capable de surveiller et qui est capable d'intervenir, elle va être discutée lors de cette conférence. Et c'est là où les données sont importantes. Parce qu'en fait, si on ne sait pas, eh bien, on ne peut pas agir.
Alors, la question des données, elle est assez récente, finalement. Alors, peut-être aussi, pour commencer, revenir sur certains éléments de mon introduction. La Lune, que l'on connaît très bien, les océans, c'est quelque chose de plus compliqué. Et pourquoi est-ce plus compliqué? Je ne sais pas qui souhaite répondre. Est-ce que Charles Guénois, vous souhaitez? Après ça, je passerai la parole à Guillaume Delacroix.
C'est plus difficile parce qu'on ne changera jamais la réalité maritime des choses. Cette réalité maritime, elle repose sur l'immensité. C'est un fait. C'est difficile de s'approprier un espace aussi grand dans les trois dimensions. Il y a aussi une autre réalité qui est la physique du milieu. C'est-à-dire que la propagation des ondes radio, des ondes radar, dépend en surface et dans l'air des caractéristiques qui sont changeantes aussi en mer. Donc on n'a pas toujours les mêmes portées, on ne peut pas voir toujours les mêmes choses. Et sous la mer, c'est encore plus marqué, puisque là, on utilise plutôt des ondes acoustiques, des sons, qui dépendent dans la propagation des différentes couches d'eau. Et donc, on a une vision qui est nécessairement partielle. Donc, l'exploration de cet espace reste conditionnée par ces réalités. C'est une partie de ça qui fait la difficulté du domaine.
Alors, Guillaume Delacroix, de quoi pour clarifier les choses et que ce soit bien clair pour nos éditeurs et puis pour moi aussi, très égoïstement. De quoi parle-t-on quand on parle de numérisation des océans et quels sont les types de données maritimes aujourd'hui collectées et par quels moyens?
D'abord, j'aimerais juste rebondir sur ce que disait Julia Tasse pour remettre un peu cette conférence de Nice dans son contexte. Il faut savoir, pour moi, c'est un rattrapage et c'est ça qui fait que c'est un événement considérable qui va se passer parce que on connaît les COP, hein, les conférences des parties, la COP sur le climat, on en est à la 30e, la COP biodiversité et la COP désertification, on en est au 17e de ces COP et là, on en est qu'à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, c'est dire qu'on est un peu en retard quand même. Et ça signifie aussi, c'est le symbole de notre méconnaissance de cet océan et en même temps de cette volonté politique de rattraper ce retard parce que on va en discuter ensemble. Il y a des enjeux derrière extrêmement importants et notamment géopolitiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se passe déjà beaucoup de choses en termes de mesure des océans. Il y a des milliards de points de mesure qui existent en surface et en profondeur. On dit qu'il y a à peu près 10 milliards de points de mesure actuellement et ces points de mesure, ils sont actualisés toutes les 2 minutes. Donc en fait, il y a une trentaine d'informations sur la température, l'acidité, la vitesse du courant qui sont collectées partout sur les mers du globe. Et puis alors, surtout, la nouveauté, c'est quand même évidemment les satellites. On en a déjà un petit peu parlé. Les satellites, eux aussi, surveillent les mers. Donc, il y a une surveillance à distance. Et on va y revenir aussi. Il y a un phénomène de démaritimisation. Je le prononce lentement à dessein parce qu'on peut surveiller la mer à distance depuis la Terre ou depuis l'espace. Et ça, ce sont les grandes nouveautés qui sont permises par le développement du numérique, de l'intelligence artificielle et puis la quantité de données qu'on est capable aujourd'hui de collecter et d'agglomérer.
Alors, en quoi les données sont-elles devenues aujourd'hui un enjeu stratégique? Je ne sais pas qui... Julia Tasse.
C'est devenu un enjeu stratégique. Alors, je pense que Charles pourra également rebondir, mais parce que c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Connaître la mer et savoir qui y opère, ça permet d'agir ensuite. Charles parlait d'immensité. On n'est pas en mesure d'être opérationnel sur l'ensemble de la surface du globe. Donc, en fait, il faut avoir une économie des moyens. Il faut savoir exactement où envoyer le bateau, où envoyer le drone. Et en fait, ça, c'est possible que si on sait où envoyer le bateau ou où envoyer le drone. Donc, finalement, la Marine nationale, je crois, parle de supériorité informationnelle, ce que je trouve assez explicite comme terme, c'est-à-dire que si on a plus d'informations, on a plus de capacité d'action. Et le fait qu'on rentre dans un nouveau paradigme parce que l'on est capable d'avoir plus de données qu'avant, crée une forme de course à la technologie, de course à l'innovation, de course à l'équipement, parce qu'il faut avoir de meilleures connaissances que ses compétiteurs stratégiques et être en mesure aussi de leur montrer que l'on sait qu'ils sont là. Et ça, c'est encore autre chose, mais ça fait partie de toute cette dialectique, c'est-à-dire non seulement on est capable de le savoir, mais on fait savoir à celui en face qu'on l'a repéré, qu'on sait où il est et potentiellement ce qu'il est en train de faire, ses intentions. Donc c'est un peu un jeu d'échecs, en fait, qui se tient sur les mers. Et peut-être aussi, pour rebondir sur la nature des données, l'enjeu est immense parce qu'on a des données qui vont être des données militaires, et là je parlais tout à l'heure de savoir qui se situe où et qui fait quoi. Donc ça a toujours été le cas. Il y a sans doute une amélioration, mais là je ne suis pas spécialiste. Mais la différence, je dirais, c'est que vous parliez tout à l'heure dans l'introduction de guerre hybride, l'hybridité des usages de la mer, c'est le fait que Il y a de nombreux acteurs qui se trouvent en mer. Il y a maintenant des flottes de pêche qui peuvent être utilisées comme des sortes d'envoyés, de proxy. Et donc, finalement, il y a beaucoup plus d'usagers civils, mais dont on ne sait jamais vraiment s'ils sont uniquement civils ou pas. Donc, toutes les données civiles, les données de navigation, de positionnement des bateaux, les données de nature de la mer, de météorologie, etc., toutes ces données peuvent avoir des enjeux qui sont des enjeux d'ordre stratégique et plus uniquement de sécurité maritime, c'est-à-dire réduire les incidents de navigation.
Charles Guénois.
L'augmentation de la donnée maritime est une opportunité aussi pour avoir une vision plus fine de l'espace maritime, et c'est stratégique pour nous. Mais elles vont permettre, ces données, de voir certaines choses à certains endroits, à certaines conditions. La donnée seule, si elle n'est pas croisée avec un savoir-faire opérationnel, avec une connaissance de marin de l'espace maritime, avec une connaissance de marin des zones maritimes, c'est-à-dire que le fait d'y avoir navigué, de savoir qu'on ne navigue pas pareil en océan Indien et en Méditerranée, que les habitudes des acteurs sont différentes, que les données générées sont différentes, si on n'a pas cette connaissance, on ne donnera jamais de sens aux données. Et on ne pourra pas, comme disait Julia, orienter les efforts et nos capacités d'analyse et d'action au bon endroit, au bon moment.
C'est ce qu'on appelle la valorisation des données, c'est cela ?
C'est ça. On ne peut pas séparer, comme je l'évoquais au départ, la réalité maritime des choses. On ne peut pas s'en séparer.
Guillaume Delacroix, vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Oui, en fait, ce que je voulais rappeler, c'est que les deux grands enjeux de cette conférence de Nice, c'est effectivement cette dimension de la sécurité, hein, cette dimension géopolitique, hein, qui contrôle quoi, et qui arrive le premier à contrôler quoi. Et puis le deuxième, c'est protéger l'océan d'une manière générale. Et donc, par rapport à la menace climatique, comment est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait de plus en plus de plastique qui flotte à la surface des océans, comment on fait pour ralentir la hausse du niveau de la mer, etc. Donc, il y a aussi beaucoup d'enjeux environnementaux. Et tout cela est extrêmement entremêlé, en fait. C'est ce qu'on va voir, c'est qu'on a énormément de données aujourd'hui qui se croisent. Et l'enjeu, c'est justement d'arriver à les faire communiquer entre elles.
Alors, il y a une question qui m'intéresse particulièrement et j'aimerais avoir évidemment votre regard à chacun. C'est la question des vulnérabilités ou plutôt des dépendances, mais qui génèrent aussi cette vulnérabilité. Les chiffres sont là. 95% des communications mondiales passent par les câbles sous-marins. Et 92%, je parle bien sûr sous votre contrôle, peut-être que je n'ai pas les bons chiffres, mais il n'empêche qu'on est quand même dans des proportions qui sont absolument impressionnantes. 92% des données numériques des pays occidentaux sont stockées aujourd'hui aux États-Unis. Charles Guénois.
Ça montre une réalité maritime, encore une fois, qui est que tout l'espace numérique repose en quelque sorte sur les océans. Puisque notre espace numérique repose sur les data centers qui sont à terre, certes, mais aussi sur les câbles sous-marins, comme vous l'avez très bien illustré, qui sont un peu les mailles de ce réseau, sans parler des enjeux énergétiques qui passent aussi par la mer. Donc cette réalité ouvre sur certaines vulnérabilités, mais montre aussi que les espaces numériques et physiques en mer sont intrinsèquement liés et qui a un enjeu stratégique à maîtriser ces infrastructures, notamment par la mer.
Alors, ça, c'est une façon de me répondre. Mais il y a aussi une autre façon. Alors, je ne sais pas si c'est Guillaume Delacroix qui veut le faire, mais j'ai en tête Starlink, propriété de Monsieur Musk, que nous connaissons tous bien parce que nous en parlons tellement depuis, particulièrement depuis le 20 janvier dernier, puisqu'il est rentré au gouvernement de Monsieur Trump. La question de Starlink, qui équipe la plupart, là aussi je parle sous votre contrôle, la plupart des bateaux qui naviguent sur les océans. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Guillaume Delacroix, mais qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si jamais Monsieur Musk, un jour, décide que, ben voilà, il va couper l'accès de Starlink à certains. Enfin, voilà, c'est ce que j'appelle cette vulnérabilité qui repose sur notre dépendance Guillaume Delacroix.
Ça, c'est un vrai sujet qui va être débattu à Nice, en effet. C'est la privatisation, en fait, des données ou de leur collecte et de leur traitement. Et c'est le troisième pied, si je puis dire, de ces réseaux, parce qu'on évoque donc les câbles sous-marins. Et moi, j'ai en mémoire, au début de la guerre en Ukraine, cette rupture de câbles dans la Baltique. On n'a pas très, très bien mesuré, nous, dans le grand public, ce que ça voulait dire. Mais le fond des mers est tapissé de câbles. Et en effet, tout se passe au fond de la mer, à des grandes profondeurs, parfois très grandes profondeurs. Le deuxième, c'est les data centers, dont on parle là depuis quelques minutes, et puis en effet les satellites. Et les satellites, eh bien effectivement, c'est comme les lanceurs de M. Musk qui pallient les défaillances de la NASA, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à quelque chose de vraiment nouveau, où des opérateurs privés, parce que la puissance publique, parfois, n'a plus les moyens de le faire, s'emparent de ces problématiques, et ça pose un vrai sujet, en effet, de maîtrise et de liberté, parce qu'en fait, si un opérateur privé comme M. Musk contrôle les données, ça rend la situation vraiment critique. Donc c'est un des sujets majeurs de Nice, de savoir si on peut continuer et comme ça. Et en fait, cette conférence, elle redonne toute sa valeur à la science et en fait au débat qui doit tourner autour de cette science. Qui fait la science et qui l'utilise? Parce que les États-Unis aujourd'hui posent cette question-là à tout le reste de la planète.
Alors je sais, Julietta, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à ce que vient de dire Guillaume Delacroix? Je vous propose de le faire dans quelques instants.
De sable perdu dans l'océan, j'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. En fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme empli d'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent.
Emmène-moi, boulevard désert. Nous poursuivons avec vous tous, Julia Tasse, Guillaume Delacroix, Charles Guénois, sur la question des données maritimes, la géopolitique des données maritimes, l'océan qui est devenu transparent, point d'interrogation, parce qu'il n'est peut-être pas, mais on le dira, si transparent que ça. En tout cas, on évoquait la question de la vulnérabilité, de la dépendance. Je citais l'exemple de Starlink, et dépendance au privé, mais pas seulement, Julia Tasse.
Oui, parce qu'effectivement, ce qui a été mentionné par Guillaume et Charles, c'est la dépendance du secteur public et parfois des agences de surveillance de la mer vers le privé, au privé, et pour ce qui est des câbles sous-marins, c'est la dépendance de l'ensemble, je dirais, de notre système Internet envers des acteurs privés qui posent des câbles ou surtout qui sont propriétaires de câbles. Mais il y a aussi une dépendance au public. Et finalement, il y a une partie des données que l'on utilise dans la surveillance de l'état de la mer, donc des données environnementales, qui proviennent de capteurs qui sont américains, notamment parce que les États-Unis ont une agence de surveillance océanographique et atmosphérique qui est considérable et qui a été détricotée par l'administration Trump depuis janvier, avec une baisse de fonds très importante qui va nécessairement avoir un impact sur ces capteurs installés un peu partout par les États-Unis et donc par la disponibilité. Ça va avoir un impact sur la disponibilité des données pour les scientifiques européens, mais internationaux. Se pose donc la question de qui va venir remplacer les États-Unis dans cette forme de suprématie des données environnementales, sachant que l'Europe est très bien équipée. Hein, de son côté, on a des gros programmes européens scientifiques, on a des programmes satellitaires européens, donc on n'est vraiment pas démunis, mais on repose quand même nécessairement sur la donnée américaine. D'une part, la première question, c'est qu'est-ce que ça implique comme vulnérabilité, cette dépendance ? Et puis, qui va venir prendre la place, si quelqu'un vient prendre la place ? Est-ce que ces nouveaux acteurs partageront les données de la même manière que les États-Unis le faisaient ? Parce qu'on n'a pas encore évoqué cette question de protection versus partage, mais c'est des questions à la fois techniques et politiques. Et cette question du partage des données environnementales, elle reste au cœur de la conférence qui se tient la semaine prochaine, mais surtout au cœur des échanges qui se tiennent en ce moment même à Nice, puisque cette semaine, avant la conférence politique, il y a une conférence scientifique sur la mer. Et je pense que le sujet essentiel de cette conférence scientifique, c'est les Américains ne sont plus le moteur de cette recherche, ils ne sont même pas présents à cette conférence ou très peu. Et donc, qui et comment on s'organise pour faire face à cette possible énorme faille dans les systèmes de surveillance.
Alors, je voudrais juste rebondir, après ça je vous passe la parole, Charles Guénois, sur ce que vous venez de dire par rapport à l'attitude des Américains qui ont donc baissé l'octroi de fonds. Est-ce qu'on peut parler de stratégie où, et donc, voilà, on arrête, c'est l'obsession de Trump, c'est de dire que les Européens se nourrissent sur la bête, que les Américains sont beaucoup trop généreux. Est-ce que c'est cette stratégie-là ou c'est un simple souci d'économie, Julia Tass ?
Je ne suis pas sûre. Alors, je ne maîtrise pas bien les intentions de Donald Trump, mais je ne suis pas sûre qu'il se rende compte du levier stratégique que représente finalement le fait d'être le pourvoyeur de données environnementales à l'échelle internationale. Je pense qu'il a coupé les fonds de la NOAA, l'agence américaine océanographique et atmosphérique, parce qu'il considérait que c'était des scientifiques qui s'intéressaient au climat et que le climat n'est pas sa priorité, donc il coupe les fonds. Il n'a pas forcément d'ailleurs coupé les fonds des projets océans en particulier. Il a d'abord coupé les fonds de projets liés au climat, mais ça va avoir une répercussion sur les projets océanographiques. Je pense que c'est plus un angle mort de l'administration Trump qu'une volonté politique intentionnelle. Moi, ce qui m'intéresse à titre personnel en tant que chercheuse, c'est de faire le bilan dans 4 ans, dans 5 ans, et de voir est-ce que ça a changé quelque chose dans la puissance maritime américaine, ces fonds qui ont été coupés à la NOAA.
Charles Guénois, sur la notion de vulnérabilité, de dépendance, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce qui s'est dit jusqu'à présent ?
Alors, comme marin, il y a d'abord une culture de la résilience à retrouver.
C'est-à-dire
quand je suis en mer, si j'ai une avarie de barre, si mon gouvernail tombe en panne, il y a toute une suite de procédures et d'outils qui vont permettre d'aller reprendre, passer d'un système numérisé à quasiment un système hydraulique en agissant directement sur le gouvernail du bateau. Et on s'entraîne régulièrement à ça. Ça montre, c'est un tout petit exemple, mais ça montre que la résilience, elle est à la fois technique, on pense, et si on avait pu ça, comment ferait-on ? Et humaine, c'est-à-dire qu'on s'y entraîne. Ça, c'est la première chose. La deuxième, changeons d'échelle, parlons protection des infrastructures maritimes, même protection de notre espace maritime, puisqu'on a le deuxième au monde. Il faut un savoir-faire pour la maîtrise de cet espace, et la marine française est une marine de premier plan, y compris dans le domaine de la lutte anti-sous-marine, de la maîtrise de l'espace sous-marin. Tout ça adossé à un écosystème public-privé qui permet de renforcer des piliers de souveraineté bien choisis, On le voit par exemple dans le spatial, il y a des écosystèmes en France qui sont très puissants dans le domaine de la dissuasion. Également côté marine, on a aussi une politique d'innovation qui vise à rapprocher l'industrie, la direction générale de l'armement et les opérationnels autour de par exemple data hub embarqué, où on partage cette donnée, on crée des nouvelles choses. Ça montre aussi qu'il y a une valeur à partager et que si on a une culture de la résilience bien pensée et qu'on a en plus un écosystème bien structuré, on aura cette capacité de pivot au bon moment.
Alors, valeur à partager, je rebondis sur ce que font les Européens, Guillaume Delacroix, qui ont plutôt opté pour ce qu'on pourrait dire une sorte de soft power, en tout cas, c'est l'open data. Les Européens ont développé le service Copernicus Marine, qui est observation et gestion des océans. On souligne, là au passage, que c'est une offre qui se fait en libre accès avec une énorme quantité de données et de cartes sur l'océan mondial. De quoi relève ce choix de mettre tout cela en open data et qui cela satisfait, Guillaume Delacroix ?
Ça, c'est un autre sujet fondamental de Nice, puisque notamment la conférence doit accoucher d'une organisation intergouvernementale qui existe formellement, mais sous une forme administrative différente aujourd'hui, et qui est en charge de ce qu'on appelle l'élaboration d'un jumeau numérique de l'océan.
Alors là, vous allez nous expliquer ce qu'est un jumeau numérique.
Oui. Le jumeau numérique, en fait, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis des années déjà dans l'industrie. Par exemple, un avionneur veut concevoir un avion du futur. Il va le concevoir dans un ordinateur. Il ne va pas en fabriquer un prototype. Autrefois, on faisait des prototypes et puis on les essayait. Parfois, ça tombait. Parfois, ça ne tombait pas. Aujourd'hui, on fait tout de façon virtuelle. Renault, par exemple, pour ses automobiles, utilise des jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'il crée des voitures numériques virtuelles pour les essayer, pour voir si elles vont correspondre aux nouveaux critères environnementaux, etc. Donc l'idée là, c'est en fait une idée de l'Union européenne qui date déjà de quelques temps, c'est de créer un jumeau numérique de l'océan, c'est-à-dire un énorme outil informatique, internet, qui permette d'avoir une représentation numérique, digitale de l'océan dans tous ses fonctionnements. Donc vous imaginez les enjeux, c'est considérable, et c'est pour ça que les données aussi ont un rôle stratégique, géopolitique déterminant. C'est parce que plus on aura de données, plus on pourra les croiser, plus on pourra les valider, plus on sera en mesure de prévoir ce qui va se passer dans l'océan. Et par exemple, de savoir comment se débarrasser des algues vertes dans la baie de Douarnenez, comment se débarrasser des déchets plastiques sur une plage de Sumatra en allant traquer l'origine de ces déchets plastiques, etc. Donc il y a des applications extrêmement concrètes. Et l'idée de ce jumeau numérique qui est en cours d'élaboration, c'est qu'il soit effectivement gratuit à la disposition de tous, les citoyens, les responsables politiques, les scientifiques, les entreprises, tout un tas de connaissances qui existent de manière éparse et auxquelles on puisse donner du sens pour protéger en fait notre océan. Et c'est ça quand même l'objectif de la conférence de Nice, c'est protéger notre océan et toute sa richesse en essayant de devancer en fait les transformations qu'il subit sous l'effet anthropique, sous l'effet de l'homme et sous l'effet des changements climatiques que l'on connaît.
Alors je voudrais poursuivre sur cette contradiction tout de même qui veut que l'Europe a beaucoup de mal à exister sur le plan des données maritimes, etc., alors que finalement, elle est parmi les meilleures dans la collecte d'informations, Julia Tass.
L'Europe a énormément d'atouts, en fait, dont on se rend assez peu compte parce que ça va être des atouts techniques qui ont été évoqués, des atouts scientifiques. On a des institutions scientifiques considérables qui sont majeures à l'échelle internationale, scientifiques françaises comme l'IFREMER ou le service hydrographique et océanographique de la marine. Mais aussi une diversité d'acteurs à l'échelle de l'Union européenne. On a des acteurs économiques, une économie bleue qui est très, très allante, très dynamique. On a des armateurs. On a quand même des armateurs très importants. Mais je pense qu'il y a une différence entre la volonté politique au niveau européen et la réalité. La réalité, c'est que l'Union européenne a quand même énormément. Si on devait considérer que la puissance maritime, c'est différents leviers, différents boutons sur lesquels on appuie, puis plus on en a, plus on est capable d'agir, l'Europe en dispose de beaucoup. Grâce aux États membres et puis grâce à des institutions qui sont au niveau européen. L'Union européenne, en tant qu'institution politique, travaille sur l'océan depuis, en termes de, comment, de protection des océans depuis un peu plus longtemps, selon moi, et avec un peu plus de dynamisme qu'au niveau des États membres. Et elle est assez visible à cette conférence de la semaine prochaine. Par exemple, il y a un pacte européen sur un pacte bleu qui va être discuté. Donc, il y a quand même des engagements très forts politiques. Mais en tant que puissance, on se heurte quand même à l'essence même de l'Union européenne. Comment parler de puissance quand on est une union, etc. Et donc, la puissance maritime en soi, elle n'existe pas pour l'instant au niveau européen à cause d'une question de volonté politique, mais qui n'est pas une mauvaise volonté ou une absence de vision maritime. C'est plus que la question de la puissance, ça rend les Européens assez frileux. Elle est beaucoup plus applicable à l'échelle nationale. Et donc, il y a énormément d'outils, effectivement. Mais l'Europe est reconnue en tant qu'acteur. Et au niveau de cette conférence, les Européens auront une part très importante, et c'est aussi pour ça que ça se tient en France, une part aux discussions très importante, d'autant plus que les Américains n'y seront plus.
Alors, les acteurs, on continuera d'en parler parce qu'on n'a pas encore parlé des Chinois, mais dont je me suis laissé dire qu'ils se régalaient avec nos open data que les Européens développent à travers Copernicus. Et on parlera des autres également dans quelques instants.
La mer m'a donné sa carte de visite pour me dire je t'invite à voyager. J'ai de grands chevaux à la crinière blanche et puis j'ai dans la manche tant de bateaux. J'ai du vent qui enivre ceux qui veulent me suivre dans l'illusion facile de la douceur des îles. Terres inconnues où les filles les moins sages vivent sur le rivage. La mer m'a donné une carte du monde mystérieuse et ronde comme un galet. Mais je t'ai trouvé étendu sur le sable, fragile et désirable. Désirée, plus belle qu'un voyage, plus douce et plus sauvage, plus calme et plus cruelle que la mer qui m'appelle dans tes yeux ouverts. Le ciel était bleu tendre. Laisser te prendre comme on prend la mer, comme on prend la mer, comme on prend la mer.
La mer m'a donné de Georges Moustaki, vous l'aviez reconnu. Les grands acteurs, Charles Guénois, on a parlé des Européens et je le disais, les Chinois se régalent avec tout ce que les Européens peuvent offrir en termes de données. Je rappelle que les Européens sont parmi les plus généreux et les meilleurs collecteurs d'informations, alors que peut-être on ne sait pas suffisamment valoriser. Je ne sais pas, Charles Guénois et les Chinois, quel est leur...
Ce qui est intéressant avec la Chine, c'est que la stratégie des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie, a une double dimension physique et numérique. C'est à la fois un réseau portuaire mondial de points d'appui, une stratégie beaucoup plus large, mais il y a un miroir numérique. C'est-à-dire que c'est le déploiement aussi de routes numériques, de câbles sous-marins, et associé à ces câbles, toutes les infrastructures qui vont au-dessus, c'est-à-dire que les services numériques associés, les normes, certaines collaborations géopolitiques. On voit que cette double approche physique et numérique, et par ailleurs, à l'échelle de la Chine, ils appellent ça la grande muraille numérique. Ils ont aussi une stratégie de double circulation où ils protègent aussi leur espace numérique afin de mieux se projeter à l'extérieur, notamment vis-à-vis de ces routes numériques. La nouvelle route de la soie.
Donc finalement, on est d'accord. Là, je ne sais pas qui peut répondre ou qui veut répondre. Les Chinois sont moins généreux que les Européens dans leur partage de données. On a entendu mur numérique, cloisonnement. Charles Guénois.
Alors moi,
oui, Guillaume Delacroix.
Oui, moi, je voulais juste faire un petit rappel historique parce que les Européens, parce qu'on posait la question de la prédominance ou du volontarisme européen, en tout cas, historiquement, ce sont les Européens qui ont dominé les mers. Et tout le débat qu'on a aujourd'hui sur peut-on être indétectable en mer, doit-on l'être, est-ce qu'on est libre en mer, etc., ça remonte à loin. Il y a cette référence toujours d'un philosophe néerlandais, Hugo Grotius, qui avait conceptualisé l'idée de mare liberum, la liberté des mers, c'est-à-dire qu'on puisse disparaître en partant en mer. Et c'était une vision qui s'opposait à celle des Portugais à l'époque, parce que les grands découvreurs, les grands navigateurs portugais, eux, avaient déjà posé des jalons en Amérique et puis en Inde, et ils voulaient au contraire une mer fermée, un mare clausum, pour justement protéger leur monopole commercial. Et donc, c'était des acteurs européens à l'époque. Mais là, pour rebondir sur ce qu'on disait sur la Chine, moi, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas que la Chine. Alors oui, il y a les routes de la soie, en effet, qui sont considérables et qui posent des tas de problèmes dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indo-Pacifique. Il y a aussi l'Inde. L'Inde a des velléités aujourd'hui, à travers le développement des technologies numériques, de prendre sa part à la collecte d'informations, à la surveillance, au contrôle des mers qui l'entourent. Et par exemple, puisque je parlais tout à l'heure du jumeau numérique, l'Inde est en train aussi de mettre en place son propre jumeau numérique à des fins géostratégiques dans l'océan Indien et dans l'Indo-Pacifique en général.
Juliette, vous souhaitez rajouter quelque chose de tout ce qu'on a entendu, effectivement, peut-être les pays du sud global, même si, eh bien si, la Chine en fait partie, l'Inde aussi.
Alors, il y a des institutions scientifiques qui participent à finalement cette grande base de données mondiale sur l'océan qui se situe un peu partout autour du monde. Mais effectivement, le propre de l'Union européenne, c'était cette politique d'open data, d'open source, qui était quand même assez particulière parce qu'elle portait pas uniquement sur les données scientifiques, elle portait aussi sur les données publiques, les données de l'administration. Les Américains donc, ont cette puissance de collecte et de partage de données également. Et les acteurs scientifiques chinois vont aussi essayer de partager, parce que dans le monde scientifique, le partage de résultats et le partage de données, c'est ça qui crée la renommée et la puissance. Simplement, je pense que c'est au niveau scientifique, les choses se structurent autour de l'idée de partager les données et d'avoir des standards qui soient assez compatibles autour du monde. Ils ont des principes, etc. La différence ne se fait pas tant au niveau scientifique, même si là, il y a des échelles de capacité de collecte et de partage des données. La différence se fait au niveau des intentions politiques derrière. Est-ce que ces intentions politiques, elles sont simplement basées sur le partage de la science et le fait de pousser la science, ou est-ce qu'elles sont basées sur autre chose? Et c'est là où il y a des différences assez évidentes.
On ne peut pas être naïf, en tout cas.
On ne peut pas être tout à fait naïf. Mais cette capacité à collecter les données, elle est parfois... et c'est là où c'est tout l'intérêt, finalement, de ce sujet. C'est que on regroupe au sein d'un même sujet et de mêmes interrogations des acteurs qui ont des visions tellement différentes de l'espace maritime et de la géopolitique des espaces maritimes. Quand vous parlez à certains scientifiques, ils n'ont absolument aucune conscience que leurs données puissent être d'un intérêt stratégique. C'est le partage de la présence de tel ou tel, par exemple, nodule polymétallique dans tel endroit du monde. Mais tout ça ne sera jamais décorrélé du politique. La science est neutre dans son intention, mais les résultats peuvent toujours être utilisés.
C'est ce qu'en feront les politiques. Alors, à ce stade, et j'aimerais reprendre peut-être le titre de votre numéro de la Revue internationale stratégique, l'océan transparent, point d'interrogation. Est-ce que l'océan sera jamais transparent? Je pense aux enjeux stratégiques liés à la colonne d'eau. Alors la colonne d'eau, on peut pour nos auditeurs juste préciser que c'est ce qui part de la surface de l'eau jusqu'au fond marin. Et ce fond marin, il peut aller jusqu'à 6000 mètres et peut-être davantage. Mais je vois que vous me donnez raison, Charles Guénois, donc ça me va bien. Et moi, je me pose la question des sous-marins. des sous-marins des uns et des autres, parce que je pense que c'est important aussi qu'on puisse avoir des images. Est-ce que, avec cette transparence, ou en tout cas cette multiplication des données maritimes et de l'accès à ces données, eh bien finalement, c'est d'une certaine manière la fin pour les uns et les autres de la dissuasion nucléaire ou la fin de l'effet surprise, Charles Guénois?
Je reviens à la réalité maritime des choses. Les conditions de propagation des ondes acoustiques sous l'eau qui permettent de mettre en œuvre des sonars pour détecter les sous-marins fait qu'on aura toujours une vision partielle de cet espace. Et utiliser un sonar ne suffit pas. Il faut aussi savoir s'en servir, avoir un sens tactique extrêmement développé pour savoir à quelle immersion on met le sonar, sur quelle fréquence on émet, en fonction des conditions de salinité, justement, de pression et de température dans la colonne d'eau, pour essayer d'aller chercher le sous-marin là où lui saura se cacher. Donc c'est un jeu de track qui est extrêmement complexe et qui demande une expertise très élevée et qui sera jamais, qui nous donnera jamais une transparence assurée.
Jamais.
Parce qu'on sera toujours face à cette réalité physique. Même avec les meilleurs sonars et les meilleurs opérationnels, et en France on n'est pas loin de ça, il y a des conditions de détection qui sont variables. Donc la chasse aux sous-marins, on peut arriver à avoir à éclairer certaines zones stratégiques, à s'assurer qu'il n'y a pas de sous-marins dedans. Ça on peut faire, on concentre les moyens, et on rejoint à la question de la concentration des moyens et au sens tactique. Mais avoir à l'échelle de l'océan ce que vous appelez une transparence dans le domaine sous-marin et même en surface, c'est assez difficile.
Oui, Julia Tass.
Simplement pour aussi, parce que c'est vrai que quand on n'est pas familier de ces enjeux-là, c'est compliqué de comprendre comment un sous-marin peut se cacher. L'océan n'est pas du tout un verre d'eau et les ondes ne se diffusent pas du tout de la même manière partout. Il y a beaucoup d'hétérogénéité. Mais par rapport à cette question de la transparence, parce qu'effectivement, il y a un point d'interrogation sur la couverture, la question porte donc sur l'ensemble de l'océan. Effectivement, là, ce sera très compliqué d'avoir cette transparence. Mais par contre, il y a certaines zones où la multiplicité des capteurs, qu'ils soient scientifiques, commerciaux ou militaires, crée une vision bien plus précise qu'avant. Et c'est peut-être la différence. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était plutôt des capteurs militaires, quand même. Il y avait des capteurs scientifiques, parce que en fait, quand on écoute une baleine, on peut entendre un sous-marin. Bon, alors, de moins en moins, mais quand même. Aujourd'hui, il y a des capteurs commerciaux. Il y a des capteurs commerciaux parce que on surveille les éoliennes en mer, par exemple. On surveille les pipelines parce qu'on sait qu'il peut leur arriver des choses. Les câbles en eux-mêmes peuvent, en fait, au-delà de transporter la donnée, constituer des capteurs eux aussi. Et il y en a de plus en plus. Donc, il y a certains acteurs qui vont avoir intérêt à bien connaître une zone. Et donc, effectivement, il y a partiellement, à des petits endroits de l'océan, une forme de transparence qui peut se créer et encore en fonction des conditions. Mais ça change quand même tout. Parce que avant, on pouvait opérer dans à peu près l'ensemble des océans grâce à cette opacité. Et là, il va falloir prendre en compte, avec beaucoup plus de prudence, on ne peut pas aller dans ce coin-là, ou alors on peut y aller, mais avec tel outil, etc. etc. Et ça, c'est pour parler que de la colonne d'eau. Mais il y a aussi cette question, parce que Guillaume mentionnait la liberté des océans. À la surface, avant, on faisait ce qu'on veut aussi. Ce qu'on voulait en tout cas. Aujourd'hui, avec toutes les données qui circulent, on peut de moins en moins faire ce qu'on veut. Et cette question de la détection sous l'eau et au-dessus de l'eau, elle est quand même assez clé. Et j'en reviens à la question que pose l'amiral de Saint-Germain dans l'entretien qu'on a pu faire avec lui dans la revue. Tous ces enjeux de détection de données ne sont absolument pas intégrés au droit de la mer actuel, parce que ce n'était pas un sujet quand ça a été discuté. Et aujourd'hui, le droit de la mer est remis en question. Mais quand il y a en plus des failles dans le droit de la mer, vous imaginez les opportunités stratégiques que ça peut constituer pour certains compétiteurs.
Guillaume Delacroix, et ce sera en guise de conclusion de cette émission.
Je voulais rebondir sur la notion de transparence, parce que c'était effectivement le sujet de ce numéro spécial de la revue. On parlait là de dissuasion nucléaire, de sous-marins, mais il y a d'autres façons aussi d'appréhender cette problématique de la transparence, et ça n'est pas uniquement la capacité des outils numériques, en particulier à mesurer, à collecter, surveiller les choses, que ça se détermine, ça se mesure, parce que, par exemple, je suis amusé à aller voir récemment une plateforme internet qui s'appelle Global Fishing Watch. C'est comme un peu Flight Radar pour ceux qui surveillent des aéroports, vous savez, on veut voir où sont les avions qui sont en vol, à quelle heure ils vont atterrir ou décoller. il y a l'équivalent pour les mers. Et si vous allez zoomer, par exemple, à travers cette plateforme sur les îles Seychelles, vous voyez qu'il y a beaucoup de bateaux autour des îles Seychelles. Et puis, en fait, au bout de quelques distances, de quelques milles nautiques de cet archipel, eh bien, il n'y a plus du tout de bateaux sur l'écran. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les bateaux, en l'occurrence les bateaux de pêche, peuvent couper les outils qui permettent de les détecter. Ce qu'on appelle l'AIS, vous savez, c'est Automatic Identification System. Maintenant, ça marche par satellite, mais les bateaux peuvent couper leur AIS, le système qui permet de les localiser et donc de pêcher de façon illégale dans des zones auxquelles ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas normalement accès. Donc la transparence, elle s'arrête aussi à la bonne volonté des acteurs qui sont en mer. Et c'est ça qui rend l'enjeu extrêmement complexe parce qu'il y a des outils, mais il y a aussi la façon dont on les utilise.
Alors effectivement, je rebondis parce qu'il nous reste finalement un peu plus de temps que je n'imaginais. Ce droit à l'indétection, on sait de plus en plus qui est où, qui fait quoi, avec, vous le disiez, des bateaux qui parfois éteignent leur système. Et là aussi, ça pose la question du droit. Et on voit bien que le droit, sur ces questions-là, aussi bien que sur les activités illégales, eh bien, il a du mal à suivre. Je dirais, tout ça est en évolution permanente. Je ne sais pas qui souhaite Julia Tass.
Que Julia vous réponde, il y a les ONG, par exemple Greenpeace, qui dit en fait la liberté en mer, c'est en réalité du non-droit, justement, c'est l'absence de droit. Et le droit à l'indétection, aujourd'hui, il y a l'ONG Bloom qui surveille justement les mers et qui réfléchit beaucoup à tous ces concepts, qui dit que ça n'a même pas lieu d'être, en fait, ça n'existe pas, le droit à l'indétection, aujourd'hui.
Julia Tass.
Effectivement, en fait, la question se pose parce que pour une... Peut-être c'est peut-être la première fois qu'on a autant d'informations sur ce qui se passe au-delà de ce qu'on voit sur les côtes. Mmh. C'est vraiment c'est ça qui se joue. Et cette question du droit, elle est évolutive parce que effectivement, dans le droit de la mer aujourd'hui, il y a très peu d'articles relatifs aux données. Finalement, le droit de la mer encadre davantage la collecte de données scientifiques que toute autre forme de collecte de données. Les scientifiques aujourd'hui, quand ils collectent des données dans les eaux sous juridiction d'un État, ils doivent informer cet État de cette collecte de données. Ça crée énormément de problèmes parce qu'en fait, il y a des États qui, de manière très, très, très terre à terre, hein, vous êtes un scientifique, vous voulez collecter des données, ça peut être le plancton, ça peut être la salinité, ça peut être la pression, c'est beaucoup de choses différentes. Vous demandez une autorisation et souvent, en fait, vous n'avez pas de réponse. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté, c'est que ce sont des dispositifs qui demandent d'avoir tellement de monde derrière pour autoriser tous les navires, etc., qu'il y a des États qui ne disposent pas de compétences suffisantes, de suffisamment de monde pour faire ça. Et donc, finalement, vous avez des zones qui sont assez peu explorées parce qu'on a le droit, finalement, contraint ça. Et à contrario, vous avez une quantité d'acteurs qui, aujourd'hui, peuvent utiliser des drones pour aller chercher des données sans demander l'autorisation, parce qu'ils ne sont pas couverts par le droit. Donc, le droit évolue, mais il évolue plus vers du contrôle. Et en même temps, les acteurs sont tous en train de dire qu'il faut qu'il y ait un dosage. Parce que derrière, à chaque fois qu'on essaie de contrôler, c'est des petites autorisations qui sont nécessaires. Et on va finir par avoir une mer totalement fermée à son exploration.
Merci Julia Tass. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de cette édition de la revue internationale et stratégique intitulée L'océan transparent, point d'interrogation, géopolitique des données maritimes. Et vous êtes responsable du programme Océan de l'IRIS et autrice de Géopolitique de la mer. Merci aussi à Guillaume Delacroix qui était avec nous au téléphone, journaliste indépendant spécialisé dans les sujets liés à l'océan et au changement climatique, contributeur au Monde et à l'Express. Et Charles Guénois, officier de marine en échange chez Orange Cyberdéfense avec une expérience opérationnelle sur les bateaux de la marine et dans le numérique. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Mathias Golchani à la réalisation. Vous êtes bien sur RFI. L'actualité se poursuit avec RFI Soir et tout de suite le journal.
Retrouvez toutes les émissions géopolitiques sur le site RFI.fr, l'application Pure Radio et sur les réseaux sociaux.